Après le culturel, le naturel. Noir, blanc, nuit, jour, ténèbres, lumière, des oppositions naturelles, à la fois réelles et relatives. En premier lieu, il existe de nombreuses variétés naturelles. Ici, des mois entiers sans jour, là, des jours qui s'allongent, des nuits qui raccourcissent ou l'inverse, et ici ou là, des frontières, des passages plus ou moins rapides, plus ou moins lents, du jour à la nuit, de la nuit au jour. Sans oublier, comme le dirait un enseignant, que la nuit se termine et que le jour commence vraiment lorsque l'on reconnaît dans chaque visage d'un homme ou d'une femme celui d'un frère ou d'une sœur. Avant cela, il fait encore nuit. Et puis, ces variétés naturelles ne le sont pas toujours. Voilà des activités humaines qui les perturbent gravement. Le réchauffement climatique qui en particulier entraîne une fonte rapide du blanc de l'Arctique avec le Groenland. Cette disparition serait problématique pour l'humanité, mais l'élévation du niveau des océans, si l'Antarctique disparaissait, serait, elle, apocalyptique. Le jour, la nuit, le noir, le blanc, n'aurait plus personne pour les regarder et les vivre, sinon peut-être certaines espèces animales survivantes. En second lieu, pour l'instant, en tous les cas, ils sont bien là, les êtres humains, au milieu des ténèbres, des lumières et des entre-deux. Comme la journée, mais aussi avec de multiples différences, la nuit voit se succéder peine, joie, solidarité, résistance, amitié, amour, haine, réconciliation. Certains se demandent si ça n'est pas la nuit que les premiers hommes auraient utilisé le langage pour communiquer, pour dépasser leur peur, le langage qui aurait vu le jour grâce à la nuit, au milieu du noir de la nuit. Merveilleuse est aussi cette chanson d'un auteur qui aimait bien le drapeau noir, Léo Ferré. Les gens, il conviendrait de ne les connaître que disponibles à certaines heures pâles de la nuit, avec des problèmes d'hommes, simplement des problèmes de mélancolie. Et les nuits heureuses d'un film dans lequel le merveilleux acteur Gérard Philippe se jetait tous les soirs sur son lit pour vite s'enfoncer dans la nuit de ses rêves et dans la lumière de ses amours. De longues nuits, difficiles, souffrantes, quelquefois bien noires, de malades qui attendent l'aube. Et puis comment ne pas penser à ces veilleurs debout? Jacques Leclerc écrit: le monde peut s'endormir lassé par le malheur. Le veilleur est debout. Le veilleur fait confiance à l'aurore. Il faut veiller. Le veilleur a confiance au nom des autres. Enfin, comment ne pas évoquer ces moments si importants au cœur, au corps et à l'esprit de certains, de beaucoup peut-être parmi vous, ceux de la fête au cœur de la nuit? Des visages un peu éclairés qui éclatent de rire ou qui tremblent d'émotion dans la douce pénombre des confidences, à ces fêtes peuplées d'émotions et de rires partagés. En troisième lieu, le voilà, bien sûr, le cosmos, l'univers. C'est celui de l'enfant qui demande pourquoi la nuit est-elle noire. C'est aussi la lumière du soleil qui disparaît dans le terrible ouvrage scientifique de 1985, Le froid et les ténèbres, décrivant les effets de poussière issus de l'horreur nucléaire et faisant disparaître toute vie en quelques mois pendant lesquels les survivants finiraient par envier les morts. C'est également le soleil, nous dit-on, qui dans 1 milliard d'années, avant de totalement refroidir, 3 milliards d'années plus tard, aura grillé, calciné jusqu'à la moelle notre bonne vieille terre devenue ainsi toute noire, et avec elle tout le système solaire. Ce sont les trous noirs, régions de l'espace dont le champ de gravité est si intense que rien ne peut en sortir. Tout y serait vampirisé, même la lumière. Existeraient aussi les super trous noirs au cœur des galaxies. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Qu'aurait dit l'auteur de cette pensée, Blaise Pascal, devant l'hypothèse récente d'univers, au-delà de celui que nous connaissons aujourd'hui, qui ne serait peut-être ni noir, ni lumineux, mais totalement vide. Ne sommes-nous pas là, à travers les chances et les limites de l'observation, dans des sciences de l'univers qui voisinent avec la métaphysique? Mais alors, en quatrième lieu, peut-être tout est-il plus ou moins interdépendant, nature-culture, blanc et noir, jour et nuit, lumières et ténèbres, peut-être tout est-il à la fois en contradiction et en même temps, tout est-il dans une globalité, les unités et les diversités. Dans une astrophysique et une métaphysique bouillonnante, certains se demandent ce qu'il y avait avant le Big Bang et ce qu'il y a dans un trou noir. Dans chaque trou noir, on peut imaginer qu'il y a peut-être un Big Bang, c'est-à-dire un nouvel univers, une sorte de phénix renaissant de ses cendres. Ne pourrions-nous ajouter que quand ils existent dans les trous noirs de nos vies personnelles et collectives, il y a peut-être des Big Bang qui attendent pour voir le jour, entre autres, nos volontés. Rainer Maria Rilke, l'un des merveilleux poètes de la solitude, avait écrit dans « Lettre à un jeune poète » en 1929 « Toutes les choses terrifiantes sont peut-être des choses sans secours qui attendent que nous les secourions. » De façon aussi émouvante, le panache de Cyrano de Bergerac nous le redit sans cesse, c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Pour terminer, j'aimerais vous faire partager un moment qu'il m'est arrivé de vivre plusieurs fois dans différentes occasions et que vous vivrez peut-être, si ça n'est déjà fait, à l'intérieur d'une musique, d'une chanson, d'un livre, d'un film, d'un cours, d'une manifestation, d'une rencontre, d'un voyage. Vous sentirez alors, affectivement, intellectuellement, presque physiquement, comme les pas de ceux et celles qui vous ont précédés et les pas de ceux et celles qui vont vous suivre. Ce que je vais vous décrire en quelques lignes n'est que le produit de mon imagination, cela après avoir vu le film lumineux de Stanley Kubrick, 2001, L'Odyssée de l'espace. Et n'a que peu à voir avec le début du film où se déclenche une attaque entre tribus. C'est ce chef-d'œuvre qui pourtant m'a permis de penser à nos premiers ancêtres de la façon suivante. Nous voilà plongés dans une grande nuit noire, au milieu de plaines de montagnes. Et là, on aperçoit sans qu'ils nous voient quelques ancêtres de nos ancêtres, du fond des âges, qui sont assis, un peu éloignés les uns des autres. Ils scrutent la nuit noire. Leurs regards sont pleins d'angoisse et d'espoir. De temps en temps, des bruits, des morceaux de paroles sortent de leur bouche. Ils vivent cette nuit noire. Ils la fuient en l'aimant. Ils l'aiment en la fuyant. Peu à peu, ils se regardent, ils se rapprochent les uns des autres. On sent qu'ils ont moins peur, moins froid. Certains se tiennent même par les épaules. Le silence est alors déchiré par un objet lumineux qui tombe du ciel. Cette lumière qui arrive n'est-elle pas comme un reflet de leur fraternité naissante? Oui, du fond des âges, voilà nos ancêtres qui se sont serrés les uns contre les autres, comme pour donner symboliquement, en ces quelques minutes pleines d'étoiles, à tous ceux, toutes celles qui allaient les suivre, le meilleur d'eux-mêmes. Les voilà échangeant non pas leur terreur, mais partageant leur fraternité. Les voilà, nous voilà fraternisés par des périls et des projets communs. Les générations d'êtres humains nous disent à leur façon, nous croyons à la fraternité, à l'amour, à l'amitié qui brise les solitudes et change les destins. Du fond des âges, du passé jusqu'à nos jours, de nos jours jusqu'à l'autre fond des âges du futur, ne sommes-nous pas côte à côte avec tous ces témoins d'humanité qui luttent contre les forces de mort? Du fond d'usage, du fond des âges, ils étaient hier, nous sommes aujourd'hui, de l'autre fond des âges, ils seront demain au cœur de ces nuits si noires, de ces aubes si lumineuses, de ces mélanges et de ces successions d'obscurité, de grisaille et de lumière.